et d'ouvrir l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, du verset 3 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 7. Je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Amen. Chers frères et sœurs, parmi les noms au travers desquels Dieu nous est révélé, celui du Dieu de toute consolation me semble le plus beau. C'est un nom qui réconforte à tout instant. Les mots « toute consolation » n'admettent aucune limite ni aucune retenue. On pourrait en déduire que, quel que soit le problème humain que rencontre un enfant de Dieu, sa vie spirituelle intérieure demeurera inévitablement et dans toutes circonstances une vie agréable et tranquille. Mais en réalité, il semble bien souvent que ce soit le contraire. Alors, la vie spirituelle de bon nombre d'enfants de Dieu est pleine, non de tranquillité, mais de tourments et de malaises profonds. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous poser cette question. D'où provient ce malaise au sein des enfants de Dieu? Et nous allons essayer de donner quelques pistes non exhaustives, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup. Alors, la première piste me fait penser que ce malaise provient d'une certaine anxiété quant à la relation que certains chrétiens entretiennent avec leur Dieu et du doute quant à son amour. Ce chrétien-là se tourmente à l'idée qu'ils sont bons à rien et ne méritent aucune sollicitude de la part du Dieu créateur. Il soupçonne donc ces dieux d'être indifférents à leurs épreuves et de les abandonner à des moments difficiles de leur vie. Une deuxième piste me fait penser aux chrétiens qui sont anxieux et troublés à l'idée que leur vie spirituelle, leurs sentiments, leur indifférence envers la Bible, parce que disons-le, nous sommes certes des chrétiens, mais il y en a qui ont du mal à pouvoir ouvrir la parole et pouvoir la lire. Leur manque de ferveur dans la prière, aussi de ce côté-là, il y en a qui, tout juste alors qu'ils commencent à prier et le sommeil arrive, et dit voilà, j'abandonne, je le ferai demain. Et leur insensibilité, eh bien, tous ces éléments sont des natures à déplaire à Dieu. Ils sont donc tourmentés par de vains regrets quant à leur passé et par des angoisses dévorantes quant à leur avenir. La troisième piste, bien-aimée, mais fait penser aux chrétiens qui se sentent donc indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ils n'osent pas croire qu'ils lui appartiennent. Ils peuvent être heureux et à l'aise avec les amis terrestres, mais ils ne le sont pas avec Dieu. Bien que Dieu déclare qu'il est le Dieu de toute consolation. Ils se plaignent sans cesse et ne trouvent nulle part une quelconque consolation. Et la quatrième piste, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il en a beaucoup. La quatrième piste me fait penser aux chrétiens, bien que se disant disciples de Dieu, de toute consolation, répandent la tristesse et le malaise autour d'eux. Il est hors de question pour eux d'espérer amener quiconque à croire que ce beau nom par lequel Dieu nous est révélé est plus qu'une pieuse expression. Le malaise que manifestent tant de chrétiens dans la vie spirituelle est, j'en ai bien peur, responsable de la grande partie de l'incrédulité de ce monde. L'apôtre Paul ne nous dit-il pas que nous devons être des lettres vivantes? Nous devons être des lettres connues et lues par tous les hommes. Ce que le monde lit en nous est bien plus important que ce que nous faisons. Ce que le monde lit en nous est plus important aussi pour la propagation du royaume de Christ. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nous sommes, ou ce que nous disons, je veux dire, mais ce que nous sommes réellement. Il est facile de dire de belles paroles. Il est facile de dire de belles choses sur le fait que Dieu est le Dieu de toute consolation. Mais si nous n'en faisons pas vraiment une expérience réelle dans notre propre vie, nous pourrions tout aussi bien parler, mais c'est en vain. Et c'est dans le vide. Les gens qui nous côtoient, bien-aimés, doivent trouver en nous le reflet de nos paroles. Sinon, toutes nos prédications et toutes nos belles paroles resteront vaines. Nous devrions nous demander ce que le monde peut lire en nous exactement. Est-ce que notre vie quotidienne reflète réellement la consolation de Dieu ou au contraire, elle reflète le malaise? On pourrait s'interroger sur ce que veut dire la consolation que Dieu nous donne. Est-ce que cette consolation est une sorte de grâce pieuse qui nous équipe pour le ciel, mais qui est plutôt inadaptée à soutenir le poids de notre vie quotidienne avec ses épreuves et ses peines? Ou simplement une consolation honnête et authentique qui, au sein même de nos épreuves et de nos peines, nous enveloppe d'une vaste paix? De toute évidence, je crois qu'il s'agit bien de cette deuxième définition. Bien-aimés dans le Seigneur, la consolation, qu'elle soit d'origine humaine ou divine, demeure et reste la consolation et rien d'autre. Aucun de nous n'aime les expressions flatteuses. Nous voulons tous vivre des réalités palpables. Être consolé, bien-aimé, et rassuré, me semble la chose la plus agréable que l'on puisse connaître dans la vie. Nous connaissons tous cette réalité-là. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque petit, parce que tous, évidemment, nous étions petits, lorsque nous nous sommes blottis contre notre mère, après une chute ou un malheur, et que nous avons senti ses bras nous entourer, et parfois ses doux baisers dans nos cheveux, là, nous nous disions véritablement que nous étions consolés. ou lorsque adulte, après une dure journée de travail, nous nous sommes assis dans un fauteuil avec un livre à la main et les pantoufles aux pieds. Et parce que nous sommes en hiver, j'ajouterais même devant un feu. Là aussi, nous pouvons dire que nous sommes consolés et où nous trouvons le réconfort. Lorsque, après une maladie douloureuse, nous avons commencé à nous rétablir et à pouvoir nous dégourdir les jambes sans douleur, là également, nous pouvons éprouver réconfort et consolation. Ou encore, lorsque la maladie a failli emporter un bien-aimé et qui nous a été rendu à nouveau en bonne santé, là encore, nous nous sentons consolés. À maintes reprises, bien-aimés, dans notre existence, combien n'avons-nous pas dit avec un soupir de soulagement après une lourde peine passée ? Ah, quelle consolation ! Donc, le mot consolation exprime davantage le repos, le soulagement. Le mot consolation exprime la satisfaction et le plaisir qu'aucun autre mot de la langue française ne puisse le faire. Nous ne pouvons donc pas ignorer tout le bien que procure ce nom que je citais, le Dieu de toute consolation. Malheureusement, nous ne le croyons pas. Cela nous paraît trop beau pour être vrai. La joie et le bonheur que cette réalité nous aurait apporté ont été plus que notre pauvre nature soupçonneuse ne pouvait le saisir. Nous osons parfois espérer que des petits brins de consolation puissent nous être octroyés, mais nous nous enfouillons parfois à l'idée de penser que toute la consolation que le salut offert par le Seigneur Jésus met à notre disposition. Cependant, combien d'entre nous ont-ils vraiment cru que la consolation de Dieu est réellement aussi douce et aussi vraie que celle d'une mère? Au lieu de penser que nous pouvons être caressés sur ses genoux et serrés contre son cœur, comme le ferait une mère, n'avons-nous pas été plutôt enclins à considérer ce Dieu-là comme un juge sévère, inflexible, qui nous tient à distance, réclamant notre hommage respectueux et critiquant tous nos moindres défauts? Est-ce étonnant qu'aujourd'hui, notre religion, au lieu de nous mettre à l'aise, nous met très mal à l'aise? Qui pourrait s'empêcher de se sentir mal à l'aise devant un tel juge? Je pense que même ce matin, ici dans cette assemblée, personne ne l'accepterait. Bien-aimés, je me réjouis de dire et de proclamer tout haut que notre Dieu n'est pas du tout ce juge sévère que pensent certains croyants. Le Dieu véritable est un Dieu qui nous aime comme une mère, un Dieu qui nous dit de façon claire et nette, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. À maintes fois, il est déclaré, et même devant les pauvres enfants d'Israël, effrayés, comme on peut le lire dans Ésaïe au chapitre 51, il est dit, c'est moi qui vous console. Ce Dieu-là, bien-aimé, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a tant aimé les mondes et qui a envoyé son Fils unique, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Il est le Dieu qui a oint le Seigneur Jésus-Christ pour guérir tous ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés, comme il est dit dans Ésaïe 61. Remarquons bien qu'il est dit dans le dernier verset que je viens de lire, « consoler tous les affligés. Il s'agit de tous, non pas seulement quelques élus, mais tous. C'est-à-dire tout prisonnier de péché, tout prisonnier de l'infirmité, tout cœur affligé dans le monde entier. Ces mots bien-aimés n'auraient pas été utilisés si un seul devrait être exclu. Alors, ce matin, bien-aimé, peu importe que tu sois à tes yeux insignifiant, indigne ou abattu, sache que tu es concerné par cette consolation de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses exhortations aux chrétiens de Thessalonique, alors qu'il encourageait, il les encourageait, pardon, à se consoler mutuellement, prit soin de mentionner les abattus. Plus exactement, il leur dit, ne réprimandez pas les abattus, mais au contraire, consolez-les. Comme le ferait une mère bien-aimée, notre Dieu veut nous consoler. Il veut consoler ceux qui ont le plus besoin et non pas ceux qui sont forts devant les épreuves. Pendant toute sa vie, sur cette terre, Jésus n'a fait que remplir cette mission divine. D'ailleurs, lorsque dans Luc au chapitre 9, versets 55 à 56, ses disciples lui demandèrent de faire descendre le feu du ciel pour consumer ceux qui avaient refusé de le recevoir, Jésus se retourna vers eux et le réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Bien-aimés, Jésus recevait les pécheurs et mangeait avec eux. Il a accueilli Marie de Magdala alors que tous se détournaient d'elle. Il refusa même de condamner la femme surprise d'adultère, mais dit aux scribes et aux pharisiens qui la lui avaient amenée, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ce récit, vous le trouvez dans Jean au chapitre 8 à partir du verset 7. Et lorsque, accusés par la conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, sans l'avoir condamné, Jésus se tourna vers la femme et lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Toujours et partout, Jésus était du côté des pécheurs. C'était sa tâche. Il est venu pour sauver le pécheur. Il n'avait aucune autre mission. Et de plus, bien-aimé, notre Consolateur n'est pas si loin dans le ciel pour rester introuvable. Il est tout près de nous par son esprit. Il demeure avec nous. Et d'ailleurs, au moment de quitter cette terre, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls et ne les abandonnerait pas, mais qu'il leur enverrait un autre Consolateur qui demeurera avec eux éternellement. Ce Consolateur, dit-il, leur enseignera toutes choses et leur rappellera tout ce qu'il avait dit. Il finit par déclarer, comme si c'était le résultat inévitable de la venue de ce Consolateur divin, il dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chers frères et sœurs, comment alors pouvons-nous, devant des mots si doux et si pleins d'amour, vivre avec un cœur troublé et craintif? Je me suis souvent demandé si les premiers disciples ont pleinement compris la signification merveilleuse de l'héritage glorieux que représente un tel Consolateur. Je suis absolument certain qu'encore de nos jours, une grande majorité des enfants de Dieu ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi tant de chrétiens de par le monde sont constamment en proie au doute et à l'anxiété. Cependant, vous pouvez vous demander peut-être si ce consolateur divin ne nous condamne pas parfois parce que nous péchons, ou si nous pouvons en tirer réconfort en lui. À mon avis, c'est là exactement une situation où la consolation intervient. Écoutez bien, chers frères et sœurs, quelle sorte de créature serions-nous si nous n'avions pas un maître divin toujours là pour nous montrer nos défauts et pour éveiller en nous le désir de nous en débarrasser? La Bible déclare qu'il a pitié de nos ruines. Il les montre en nous les révélant et dans le même temps, en nous montrant comment il peut rendre notre désert aride semblable à un jardin d'Éden, comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 51. Il se peut que vous ne vous sentiez pas digne de sa consolation, et vous ne l'êtes pas sans doute. Mais croyez-moi, bien-aimé, personne ne l'est. Vous avez cependant besoin de sa consolation, et c'est là d'autant plus que vous n'en êtes pas digne. Christ, comme je l'ai dit, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et non pour les justes. Votre indignité vous permet donc de prétendre à son salut. La raison pour laquelle le Seigneur permet si souvent que nous connaissions les chagrins et les épreuves, c'est pour nous attirer et nous conduire dans le désert afin qu'il trouve la possibilité de parler à notre cœur. Nous nous trouvons peut-être dans un désert de déception et de souffrance ce matin. Et nous nous demandons pourquoi c'est Dieu qui nous aime tant permet-il cet état de choses? Lui, il sait. Il sait que c'est seulement dans ce même désert que nous pourrons entendre et recevoir les mots de consolation qu'il veut déverser en nous. Nous devons donc, bien-aimés, ressentir le besoin réel de consolation avant de le recevoir. Dieu sait qu'il vaut mieux que nous ayons besoin de son réconfort et que nous le recevions. Cela nous rendra bien plus heureux plutôt que de ne pas en avoir besoin et de ne pas les connaître. Quand Dieu nous console, bien-aimés, il remplace quelque chose de bien meilleur et de bien plus élevé à la place du chagrin que nous avions, et que ce chagrin, nous devons l'abandonner pour recevoir alors sa consolation. Ce que nous perdons ne sont que des choses terrestres, parfois. Il est vrai que ça peut nous faire mal. Mais lui, il les remplace donc par des choses divines. Qui d'entre nous ne voudrait pas être attiré par ce Dieu dans un désert terrestre s'il est assuré d'y vivre les joies immenses d'une union avec Dieu? Je pense personne. L'apôtre Paul peut dire qu'il regarde toutes ces choses comme une perte, pourvu qu'il puisse gagner Christ. Cela est dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 8. Quant à nous, si nous avons ne serait-ce qu'une idée sur ce que signifie réellement gagner Christ, nous ne pouvons qu'être d'accord avec la pensée de l'apôtre Paul. Chose étrange, bien-aimé, lorsque nous sommes heureux et n'avons nul besoin de consolation, il nous est très facile de croire que Dieu est vraiment le Dieu de toute consolation. Mais dès qu'apparaissent des problèmes dans notre vie et des besoins s'en font ressentir, il nous semble tout à coup impossible de croire que Dieu puisse nous apporter le réconfort. C'est un peu comme si nous transformions la signification de la Bible et que nous lui faisions dire, non pas comme il est dit dans Matthieu 5, 4, « Heureux les affligés car ils seront consolés », mais plutôt « Heureux ceux qui se réjouissent car eux et eux seuls seront consolés ». Je trouve étrange la manière dont si souvent, dans le secret de notre cœur, nous transformons inconsciemment les paroles de la Bible. Alors, pour terminer notre exhortation, vous pouvez vous demander peut-être comment vous saisir de cette consolation divine. Eh bien, c'est simple. Vous devez tout simplement vous en emparer. La consolation de Dieu se déverse continuellement et en abondance. Mais, écoutez bien, à moins de l'accepter, vous pouvez en bénéficier. La consolation de Dieu ne nous vient pas d'une manière mystérieuse, pas du tout, ou arbitraire. Elle est le résultat d'une méthode divine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le consolateur nous rappelle les paroles des consolations de notre Seigneur. Et si et seulement si nous le croyons vraiment, alors ces paroles nous réconfortent. Ces paroles peuvent être des versets bibliques qui nous reviennent régulièrement dans la tête. Elles peuvent être des strophes, des cantiques que nous chantons régulièrement à l'église. Ou encore, une pensée sur l'amour du Christ et sa sollicitude envers nous. Si nous recevons cette idée simplement par la foi, nous ne pouvons qu'être consolés. Mais si nous refusons d'écouter la voix de notre consolateur et préférons prêter attention à celle du découragement ou du désespoir, alors cette consolation ne pourra jamais atteindre notre âme. Elle va passer à côté. Alors, bien-aimés, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Ouvre-moi ton cœur et je t'ouvrirai le mien. Lève la main et implore-moi en priant avec ferveur et j'ouvrirai ma main pour déverser ma bénédiction sur toi et en abondance. Agenouille-toi devant moi en toute humilité. Admets que tu as besoin de moi et implore mon aide, et moi, je te releverai et je te donnerai une force et un courage que tu ne peux imaginer. Alors, comme pour paraphraser Romains chapitre 15, verset 5, je dirais que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Courbons la tête dans la prière. Tendre Père, merci de nous rappeler que chaque fois que nous traversons des épreuves ou des moments difficiles, ou chaque fois que nous sommes affectés physiquement, tu es toujours là, présent, pour nous apporter ton réconfort. Laisse, Seigneur, que nous puissions te faire confiance et que nous ne laissions pas conduire nos idées ou notre vie comme le fait le monde. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit, que tu nous rappelles chaque fois que nous essayons de nous écarter de ta voie, que tu nous ramènes, Seigneur, sur la bonne voie, afin que nous puissions demeurer fidèles à toi, que nous puissions suivre la marche, le chemin que tu as tracé pour nous, afin de vivre cette joie que tu prépares pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et merci parce que tu as promis que tu ne nous abandonneras pas. Tu nous as donné ton esprit, le Saint-Esprit qui nous accompagne le long de notre vie. Et que tout soit pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.